les parts actualités.
Bonjour et bienvenue à l'émission Les Paractualités du 19 mars 2018. Hélène Denis au micro et en manchette aujourd'hui, trisomie 21, un tatouage pour la cause. Grâce à un bras robotisé, il mangera seul pour la première fois en 6 ans. Campagne de sensibilisation pour enfants dysphasiques. L'espoir d'une mère de faire évoluer les attitudes face aux jeunes à besoins spéciaux. Et on reviendra bien sûr sur les Jeux paralympiques. En entrevue, j'aurai le plaisir d'accueillir Audrey L'Espérance, jeune bénévole impliquée chez Parrainage civique Lanaudière, et aussi Sylvie Gravel, ainsi que Maryse Duquette de chez Simplicom. Nouvelle tirée de la presse, trisomie 21, un tatouage pour la cause. À l'approche de la Journée mondiale de la trisomie 21, des centaines de personnes se sont fait tatouer 3 chevrons pour souligner leur appui à cette cause. Les locaux du regroupement pour la trisomie 21 étaient inhabituellement occupés hier. Dans celui du fond, entre les classeurs habituels et les bureaux, on entendait un bourdonnement inusité pour ce genre d'endroit, celui de machines à tatouage. En vue de la Journée mondiale de la trisomie 21, une centaine de personnes se sont fait tatouer 3 chevrons pour la cause. Robin Harvey attend son tour. Il a fait le choix audacieux de se faire tatouer les 3 chevrons qui représentent les 3 chromosomes 21 sur le côté droit du cou. Son fils, Lennox, a 5 mois et vit avec la trisomie 21. Eux, quand tu les regardes, tu le vois dans leur visage qu'ils ont la trisomie 21. Alors moi, je voulais qu'on le voit, mon tatou. Quand on me regarde, a expliqué M. Harvey avant d'aller s'allonger sur la table du tatoueur Jesse Lee Birch. L'artiste et son acolyte Tina Louise Haar ont passé la journée à tatouer les 3 mêmes lignes. Tous deux ont perdu le compte, ils le font pour la cause. Ma fille devait avoir la trisomie 21. Ma blonde et moi, on a décidé de poursuivre la grossesse. On était prêts à vivre avec. Finalement, elle ne l'a pas, raconte le tatoueur qui ne s'est pas fait prier quand le studio Gypsy Tattoo lui a demandé s'il voulait consacrer gracieusement son dimanche à cette cause. La Journée mondiale de la trisomie 21 aura lieu le 21 mars. Sur TVA Nouvelles, grâce à un bras robotisé, il mangera seul pour la première fois en 6 ans. Un homme de 45 ans lourdement handicapé qui se bat pour rester chez lui pourra maintenant manger seul grâce à un bras robotisé, ce qu'il ne pouvait plus faire depuis 6 ans. Alain Godette souffre d'amyotrophie spinale de type 3, une maladie dégénérative incurable qui entraîne la destruction des muscles. Il peut parler et bouger le bout des doigts, mais le reste de ses muscles ne fonctionne plus. M. Godette engage 12 personnes qui viennent l'aider à sortir du lit, manger et prendre son bain pour éviter les centres d'hébergement et de soins de longue durée. Le 29 janvier, il a atteint la cible de 23 900 $ pour rester chez lui pour la prochaine année grâce à la générosité de plus de 120 personnes. Ce budget comprend l'achat du bras Obi, une petite merveille robotisée à 2 boutons qui pourra l'aider à manger seul. Cet équipement qui vaut 7 600 $ pourra aller chercher des aliments dans une assiette et les porter jusqu'à sa bouche. Alain Godette se souvient du souper du 12 octobre 2012, première fois où il ne pouvait plus s'alimenter. Le spectacle bénéfice Mike Ward le Magnifique a pris forme à la suite de cette perte d'autonomie. La campagne de financement d'Alain Godette combinée aux revenus du spectacle totalise les 45 000 $ nécessaires pour boucler son budget total de 75 000 $, car le gouvernement lui donne 30 000 $. Et j'ai le plaisir de m'entretenir avec Audrey L'Espérance, âgée de 25 ans, qui est la plus jeune bénévole impliquée chez Parrainage civique Lanaudière. Bonjour, Madame L'Espérance.
Bonjour, ça va bien?
Oui, merci. Vous avez choisi de faire du bénévolat quand vous aviez 23 ans. Pourquoi?
Moi, je voulais faire une différence. Je voulais m'impliquer, puis chercher un organisme ou une implication qui pourrait concilier là, mes études, mon travail, ma vie personnelle, tout ça. Mm-hmm. Puis, je suis tombée sur Parrainage civique Lanaudière parce qu'en fait, Parrainage civique Lanaudière, on peut faire une heure par mois. Il y a des mois où on ne fait pas de bénévolat, puis c'est correct. On n'a pas de pression de temps. Il n'y a pas quelqu'un qui nous attend à tous les mercredis à midi, par exemple.
Oui, oui.
Donc, c'est vraiment un bel organisme pour concilier notre rythme de vie.
Puis, et en quoi consiste votre implication, Audrey L'Espérance?
Le parrainage civique, il faut dire, là, il va te jumeler avec quelqu'un. Une personne qui a une incapacité soit physique, intellectuelle, sensorielle, psychologique. Mm-hmm. Donc, moi, j'ai été jumelée avec Mélanie, qui a une trisomie 21, puis qui souffre d'anxiété.
Que vous ne connaissiez pas du tout, là?
Non, on se connaissait pas. Puis, dans le fond, l'intervenante fait un suivi avec nous parce que ça ne veut pas dire qu'il est jumelle que ça va fonctionner.
Ouais.
Donc, si ça fonctionne pas, faut vraiment être à l'aise. Là, je préférerais avoir quelqu'un d'autre. Ben oui, exactement. Mm-hmm. Donc, c'est important qu'on se sente bien dans notre implication. Et donc, nous, ça a fonctionné tout de suite. Puis, Mélanie, son besoin était de sortir de son milieu, donc d'aller faire des activités plus sociales, culturelles. Donc, c'est ce qu'on fait. On va souper, on va voir des spectacles ensemble. Je l'amène aussi, par exemple, dans des soupers événementiels.
Est-ce que c'est vous qui décidez de l'activité que vous allez faire avec Mélanie?
La majeure partie du temps, oui. Parce qu'en fait, Mélanie, c'est difficile pour elle de me proposer des activités. Souvent, sa mère, elle va, s'il est arrivé à quelques reprises, qu'elle dit « Ah, il y a un événement tel mois, si tu veux, tu pourrais y aller avec Mélanie. » Donc, mm-hmm. ça l'arrive. Mais Mélanie, en tant que telle, elle ne peut pas. Par contre, il y a d'autres bénévoles qui, eux, avec leur jumelage, la filleule, donc, propose souvent des activités. Puis, des fois, ça peut être aussi d'aller faire des commissions ou juste boire un café.
Oui, oui.
Il y a beaucoup de filleules que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent juste sortir de la maison, avoir quelqu'un, aller boire un café. Donc, souvent, eux vont proposer des activités. Dans ma situation, c'est plus de mon côté, mais c'est vraiment du cas par cas, là, en fonction de avec qui on est jumelé.
Mm-hmm. Alors, vous appelez les gens avec qui vous êtes jumelés vos filleules. C'est votre filleule ou votre filleule le ou votre filleule sans eux.
Exactement. Puis on est parrain ou marraine. Mm-hmm. Et moi, pour Mélanie, je suis sa fille marraine.
Et qu'est-ce que ça vous apporte, cette implication, ce bénévolat-là?
Bien, ça apporte une immense fierté, puis beaucoup de bonheur aussi. On voit que, tu sais, je vois que j'apporte du bonheur à Mélanie, puis autant qu'elle, elle m'en apporte aussi, là, tu sais, c'est une relation réciproque.
Est-ce que vous pouvez dire que Mélanie est devenue votre amie? Est-ce que c'est ce genre de rapport-là que vous avez établi avec elle?
Bien, pour ma part, oui. Tu sais, Mélanie, maintenant, tu sais, elle fait même partie de... Je la considère comme un membre, là, en part entière de ma vie. Là. On se voit, on s'appelle, elle vient souper. La semaine passée, elle est venue souper à la maison avec son copain. Puis, tu sais, elle connaît mes parents, elle connaît mon chum, elle connaît mon entourage, elle connaît mes amis, je l'invite, là, tu sais. Mais c'est pas une obligation.
Non, non.
Nous, ça a été la relation qu'on a établie, qu'on a développée. Puis, pour Mélanie, je suis vraiment sa marraine. Elle ne fait pas la distinction entre l'organisme puis le rôle. Pour elle, je suis sa marraine autant que son parrain dans sa famille.
Mm-hmm.
Donc, on a vraiment établi cette relation-là qui nous convient toutes les deux. Mais il y a d'autres bénévoles, par exemple, c'est vraiment une relation qui va être plus dans le cadre de l'organisme, on se rencontre, fais du bénévolat, puis quand je repars, c'est terminé, puis on se voit le mois prochain.
Mm-hmm.
C'est correct, là, tu sais, c'est ça qui est beau avec le parrainage civique, c'est qu'on établit la relation qu'on en vit selon nos besoins, nos attentes, puis nos disponibilités aussi, là.
Ben oui, puis ça a plus de chances de succès dans ce temps-là. Est-ce que l'organisme recherche des bénévoles en ce moment?
On recherche toujours des bénévoles. En fait, il y a plus de filleules. On a une liste d'attente qui est plus longue au niveau des filleules. Puis, on cherche des bénévoles pour combler cette liste-là. Là,
est-ce que vous savez, il y a combien de personnes qui se trouvent sur la liste d'attente?
Je connais pas les chiffres
Non.
exacts. Par contre, je sais qu'on est 60 bénévoles, nous, parrainage civique Lanaudière. Puis, on ne compte pas encore la demande,
D'accord.
là.
Comment on
Donc,
fait pour faire une demande justement de parrainage?
bien, en fait, on téléphone au parrainage civique Lanaudière. Il y a deux points de service. Il y a le point sud qui va couvrir la région de Mascouche, à peu près Terrebonne, tout ça. Donc, je peux vous donner le numéro de téléphone
Oui, avec plaisir.
dans le 450. 417-0922. Ici, ça va être Nathalie qui va vraiment vous guider. C'est elle l'intervenante, c'est elle qui va établir vos besoins, puis elle va vous trouver un fiole qui correspond à vos besoins, vos disponibilités, vos attentes. C'est elle qui fait le suivi. S'il y a quoi que ce soit, c'est avec elle qu'on intervient. C'est elle qui va venir dans le milieu, qui va venir rencontrer. Puis sinon, il y a un autre point de service, Nord, qui est Rawdon. Là, vous appelez au 450-8 3, 4, 17, 28. Puis c'est la même chose, en fait. Il va y avoir une intervenante qui va vraiment répondre, faire ton suivi, puis répondre à tous tes besoins. Sinon, il y a le site Internet, parrainagecivique-lanaudière.com, où il va y avoir le numéro de téléphone, la mission, tout ça, les activités.
Et qu'est-ce
Puis,
que vous diriez, Audrey, aux jeunes qui sont à l'écoute pour leur donner envie de s'impliquer comme vous le faites, vous, à 25 ans? Ben, depuis 2 ans, donc à partir de 23 ans.
oui, ben en fait, j'ai 27 ans maintenant.
Ah bon, d'accord. On vous a rajeuni.
Oui, on m'a rajeuni. J'ai 27 ans, mais en fait, je pense qu'ensemble, en tant que communauté, on peut faire la différence, un petit geste à la fois. Puis c'est souvent j'entends, oh, j'ai pas le temps. Mais prendre le temps, on peut tout le faire, puis surtout avec le parrainage civique Lanaudière, il concilie vraiment cette réalité-là. Il y a des bénévoles qui font du bénévolat 3 fois par année, ils se voient 3 fois, puis c'est correct, c'est ça leur relation.
C'est ça, il n'y a pas de
Donc,
culpabilité, il n'y a pas d'obligation.
exactement,
Ouais.
exactement. Faut pas y aller de reculons, faut vraiment trouver un organisme qui nous corresponde, qui correspond à nos besoins, puis qu'on ait du plaisir à y aller, puis que ça nous rapporte aussi, nous personnellement, en tant qu'humains, là, tu sais. Pas que ça soit un fardeau en bout de ligne
Mais non,
de
certainement
s'impliquer.
pas. Alors, ben,
Exactement.
Audrey, l'espérance de chez Parrainage civique Lanaudière, merci beaucoup pour votre implication, pour cette entrevue, puis vous saluerez votre filleule Mélanie de notre part.
Ben, merci à vous.
Bonne
Au
journée.
plaisir. Au revoir.
Campagne de sensibilisation pour enfants dysphasiques. Karine Lévesque et Sylvie Normand, chacune mère d'un enfant ayant des problèmes de dysphasie, ont entamé une campagne de sensibilisation auprès des commissaires des 9 commissions scolaires de la région de Québec et de la Rive-Sud. Lors de la séance publique de la commission scolaire de la capitale le 20 février, Mme Lévesque a expliqué les difficultés de son enfant vivant avec un trouble sévère au niveau de l'expression et un trouble de modéré à sévère au niveau de la compréhension. Sans vouloir aborder plus particulièrement le cas de son fils, elle a précisé que le parent était le mieux placé pour définir les besoins particuliers de son enfant. Elle a indiqué ne pas avoir le choix d'inscrire son fils dans telle ou telle école. Résidant sur le territoire de la commission scolaire des Découvreurs, Mme Lévesque a déploré le fait qu'il n'y avait pas d'endroit pour ce type d'enfant. Elle a confié que la commission scolaire de la capitale disposait de classes de langage, mais qu'il n'y avait pas de place disponible. Loin de baisser les bras, elle affirme que son objectif est de sensibiliser tous les commissaires à l'importance de ne pas les laisser tomber et d'autoriser l'école oraliste à offrir ses services à des enfants dysphasiques. Karine Lévesque et Sylvie Normand espèrent que leurs démarches permettront de sensibiliser suffisamment tous les commissaires des commissions scolaires afin qu'ils appuient cette fois une prochaine demande d'autorisation de l'école oraliste de Québec. Thank you. Alors, en studio, deux invités, Sylvie Gravel, cofondatrice de Simplicom, et Maryse Duquette, cofondatrice et présidente de Simplicom. Bonjour, mesdames Gravel et Duquette.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci.
Alors, on commence avec une question toute simple. Qu'est-ce que Simplicom et les valeurs que Simplicom véhicule?
Simplicom, c'est un organisme à but non lucratif. Et puis, on a pour mission de rendre le texte écrit accessible pour le plus grand nombre. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on simplifie les communications écrites selon une méthode qui a été développée là, par un groupe de recherche à l'Université de Montréal pour rendre les textes faciles à lire et à comprendre, surtout pour les personnes qui ont des incapacités intellectuelles, mais aussi pour les personnes qui ont des difficultés de lecture ou des limitations cognitives autres ou toutes sortes de raisons là, qui peuvent les empêcher de
bien lire, d'être capable de bien comprendre.
Un texte qui s'adresse normalement à un grand public. Là.
D'accord. Et les valeurs que véhicule le Simplicom?
Ben, ce sont des valeurs d'accessibilité à l'information. Donc, c'est sûr qu'on voudrait que chaque citoyen puisse comprendre les communications écrites, surtout les messages visés citoyennes.
Mm-hmm. Parce que quand on ne comprend pas ce qu'on lit, on est dans la grosse misère.
Oui.
Exact.
Et comment est né Simplicom, l'organisme Simplicom?
Simplicom est né d'un besoin, en fait. En 2006, là, je travaillais à l'Université de Montréal. J'étais étudiante en orthopédagogie. Je travaillais dans un groupe de recherche qui développait des outils pour les personnes qui ont des incapacités intellectuelles. Ils avaient des outils pour développer les habiletés fonctionnelles de base, apprendre à compter l'argent, lire l'heure, gérer un horaire. Mm-hmm. Puis quand ils se sont attaqués aux communications écrites, ils m'ont demandé de participer.
Ah oui.
Les autres, ils avaient déjà travaillé avec la Ville de Montréal pour créer Accès Simple, le portail simplifié de la Ville, qui a été une pionnière. Là, puis là, les organismes ont commencé à dire, ben, nous aussi, on en veut un site simplifié, on veut mm-hmm. des informations simplifiées.
Ouais. Et Simplicom est né en quelle année?
En 2008, justement, à la demande du groupe de recherche.
Il y a donc 10 ans cette année?
Oui, 10 ans cette année.
Et quels sont les services que vous offrez peut-être de manière plus spécifique?
Je peux vous donner des exemples.
Allez-y.
C'est nous qui avons...
Là, c'est Mme Gravel qui parle.
Oui, c'est moi. Je peux vous donner l'exemple de la Charte montréalaise des droits et responsabilités, le guide de formation pour participer à une assemblée de consultation publique. On a préparé le manuel de lecteur. À chaque fois qu'il y a des élections municipales, c'est nous qui simplifions le manuel. On a fait aussi une capsule web, plusieurs capsules web pour l'Ombudsman de mm-hmm. Montréal. On a fait des règlements municipaux et des règlements de comités d'usagers. Ça, c'est des exemples d'outils citoyens. On a fait aussi des capsules d'information sur la retraite.
Ah oui.
Ça, vous pouvez les consulter sur le site web du Centre de documentation aux adultes et à la condition féminine. On a fait aussi, pour le gouvernement, un feuillet explicatif sur l'informatisation du dossier Santé Québec. On a fait aussi un roman jeunesse. On en a fait deux, mais on a fait, entre autres, le dernier qu'on a fait, c'est La gang des hors-la-loi.
Vous l'avez écrit, vous deux, là?
Non, c'est M. André Melançon. Ça fait partie des Contes pour tous.
Ah bon,
la gang
d'accord.
des hors-la-loi.
Oh, La gang des hors-la-loi, je ne connaissais
ouais.
pas.
La guerre des tucs.
Oui, la guerre des tucs, évidemment. Oui. Mais la gang des hors-la-loi, ça faisait moins partie de mon oui. imaginaire.
Oui, c'est une très belle histoire.
Oui, bien, c'est à découvrir.
Oui, puis on a fait des sites web aussi pour des regroupements de concertation pour les personnes handicapées. On a fait le regroupement de la rive sud de Montréal et tout récemment, on a fait la région des Laurentides.
Ah oui, c'est votre plus récente réalisation?
Non, notre plus récente réalisation, c'est le livre « Les maîtres de l'inclusion sociale ». Il y a eu le lancement jeudi passé, mm-hmm. donc qui est présenté en 4 versions, donc en français, en anglais, en français simplifié et en anglais simplifié.
Les maîtres de l'inclusion sociale, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, c'est un recueil de 150 biographies de Canadiens, de Canadiennes
ah oui.
qui ont œuvré pour rendre la société plus juste, mm-hmm. en mettant en valeur les capacités des personnes qui ont des incapacités vraiment? Intellectuelles ou un trouble de l'autisme.
Quel genre de personnes?
Une variété. Des personnes elles-mêmes, d'abord, mais aussi des professeurs, des artistes,
connus,
des athlètes.
Moins connus, à découvrir.
À découvrir, mm-hmm. parce que les gens sont peu connus, sauf peut-être certaines personnalités publiques, mais en général, c'est des gens qui... C'est la première fois qu'on reconnaît leur détermination à vivre mm-hmm. dans une société plus juste.
Et tous ces documents-là, est-ce qu'on peut les avoir de manière concrète?
Nous avons les manuels, les livres en version imprimée, les quatre versions en imprimé qu'on peut se les procurer à la Gagne Rombrou, en écrivant la Gagne Rombrou. Mm-hmm. Et il y aura éventuellement, plus tard, un peu au mois d'avril, les versions numériques vont être disponibles sur une page web.
Parfait.
Et
vous êtes combien dans l'organisme? Est-ce que vous êtes deux ou est-ce qu'il y a plus de personnes que vous, Sylvie Gravel et Maryse Duquet?
Et en plus de Maryse et moi, il y a un vidéaste, il y a Éric Jalbert qui travaille toujours avec nous. Et il y a nos lecteurs, parce mm-hmm. que tout ce que nous faisons, nous faisons lire par des personnes qui ont une déficience intellectuelle parce qu'on veut que ce soit testé, on ouais. veut que ce soit amélioré. Donc, et à l'occasion, comme dans le cas des maîtres de l'inclusion sociale, on a fait appel à une équipe de traducteurs anglophones.
Ça, il y a des travailleurs à la pige, des travailleurs
absolument,
autonomes.
Absolument, oui.
Et la simplification est un sujet qui intéresse depuis de nombreuses années des groupes de recherche en alphabétisation et en éducation. D'où vient la simplification?
C'est une bonne question. Nous, les recherches là, qui étaient faites par le groupe Défi Accessibilité à l'Université de Montréal, ça venait d'un petit document européen créé par Inclusion Europe qui s'appelait le Savoir Simplifié. À l'époque, c'était des conseils vraiment de base qui touchaient surtout la lisibilité des textes, que ça touchait moins leur intelligibilité. Mm-hmm. Donc, c'était des conseils généraux aux rédacteurs là, qui disaient « aérez vos textes ». Rendez-les...
Pourquoi faire simple? Non, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple?
C'est ça, exactement.
Bien, merci beaucoup. Merci. Vous êtes un service essentiel. Je suis très heureuse d'avoir fait votre connaissance. Sylvie Gravel, cofondatrice de Simplicom, et Maryse Duquet, cofondatrice et présidente de Simplicom. Merci, puis bonne continuation.
Merci à vous.
Avec une récolte de 28 médailles à Pyeongchang, le Canada a établi un nouveau record pour le plus grand nombre de podiums inscrits par le pays à des Jeux paralympiques d'hiver. L'équipe canadienne a récolté le deuxième plus grand nombre de médailles du prestigieux événement derrière les États-Unis, qui en ont rapporté 36, dont 13 d'or. La néo-brunswickoise Catherine Molloy rêve du jour où son fils autiste et dyslexique auditif pourra trouver un emploi. « J'aimerais avoir une communauté qui aime les personnes différentes », dit-elle. C'est une nouvelle qu'on trouve sur le site de Radio-Canada. Son fils de 20 ans, Liam Molloy, a dû travailler fort pour surmonter ses handicaps. « J'ai postulé à différents emplois, mais il n'y a rien », explique-t-il. Catherine Molloy souhaite que la transition de l'école au marché du travail soit plus facile pour les adultes autistes comme son fils. Mais la communauté pense que les personnes avec les infirmités, les autistes, le syndrome de Down peut changer. Il ne peut pas changer, mais il y a beaucoup de choses qu'il peut faire. Il peut faire les emplois que la plupart des personnes ne veulent pas, affirme Mme Molloy. Jessica Galland aide des personnes à besoins spéciaux à se préparer au marché du travail. plus de 80 % des adultes autistes sont soit sans emploi ou ne travaillent pas pendant des semaines complètes. Je pense que beaucoup d'éducation est nécessaire pour que les gens soient plus à l'aise, plus connaissants de ce que peuvent faire des personnes avec des déficiences intellectuelles. Visite guidée pour les non-voyants au Musée des beaux-arts de Montréal. Mardi 20 mars à 13h, c'est demain. Le musée souhaite vous faire découvrir des œuvres de l'art québécois. La collection est riche et toujours passionnante à explorer. Et le 10 avril, vous découvrirez l'art et la vie de cour au Palais impérial sous le règne de Napoléon. Pour plus d'informations, vous téléphonez au 514-285-2000, option 3, 514-285-2000, option 3. L'adresse du Musée des beaux-arts de Montréal, 1380 Sherbrooke Ouest, halle principale. Le guide vous y accueillera. Je rappelle les dates, mardi 20 mars, 13h, c'est demain. Et 10 avril, on aura l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute des Paractualités. C'est déjà terminé. Merci à mon équipe, Anne-Laure Janson à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté à la technique. Et puis, merci à mes invités, Audrey L'Espérance, jeune bénévole, ainsi que Sylvie Gravel et Maryse Duquette de Saint-Plicom. Hélène Denis qui vous donne rendez-vous demain. Merci.